Bien, alors en fait, nous venons à la parole de Dieu et c'est intéressant parce que beaucoup de choses qui ont été dites sont sans concertation aucune entre. Alors, vous pensiez avoir terminé avec l'Apocalypse, mais notre texte de départ se trouve dans l'Apocalypse, au chapitre 19. Non, 21, pardon. Voilà. Chapitre 21 et verset 9. On arrive à la fin de ce livre et nous lisons: Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Donc l'Église. Pendant ces instants ensemble, j'aimerais faire un peu comme cet ange, montrer la femme de l'agneau, l'épouse. La première chose à dire, c'est intéressant, c'est que, comme dans ce passage, comme dans d'autres, on n'a pas beaucoup, beaucoup d'enseignements directs au sujet de l'Église. Exactement, qu'est-ce qu'elle est? Je me rappelle avoir dans les moments de questions-réponses, la question qui est posée, qu'est-ce que c'est là par exemple? Est-ce que c'est l'Église visible, l'Église invisible ou quoi? Quelle est la différence entre les deux? Et en fait, quand on prend la question simplement telle qu'elle est posée, c'est très difficile à répondre. Parce que est-ce que c'est l'Assemblée telle qu'elle est assemblée? Est-ce que c'est les gens parmi l'Assemblée ou quoi? C'est très difficile et on s'aperçoit que dans la parole de Dieu, Dieu donne des images de l'Église. Et pendant ce temps ensemble, j'aimerais qu'on regarde quatre images de l'Église. Bien sûr, il y en a beaucoup, beaucoup plus que quatre, mais on va faire quatre. Et on part de ce que Dieu annonce dans sa parole. Alors, la Bible déclare que Dieu a créé toutes choses, mais la Bible ne se donne pas pour tâche de décrire toutes choses. Quand on lit la Bible, simplement le texte de la Bible, on ne va pas savoir, on va rien savoir au sujet du plus petit atome qu'on peut trouver, d'une molécule. Il n'y a rien qui est dit là-dessus. Dieu a donné aux hommes l'intelligence pour découvrir ces choses qu'il a créées. Seulement, quand l'homme découvre, ce qu'il découvre, en fait, est en harmonie avec ce que Dieu a déclaré. Et ça n'est que l'impiété et le cœur, de façon invétérée, rebelle à Dieu, qui transforme ces choses et qui adore, comme nous dit Paul en Romains 1, qui adore la créature plutôt que le créateur. Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui découvrent des choses merveilleuses que Dieu a créées. Mais il ne voit pas le Créateur dans ces choses. Donc voilà. Mais il y a certaines choses pour lesquelles la Bible est très explicite. Par exemple, la nature de l'homme. Qui est l'homme? Ce n'est pas une chose qui est laissée au psychologue à découvrir. Non. La parole de Dieu déclare très clairement que l'homme est par nature maintenant corrompu et mort. Et n'importe quel expert peut nous annoncer tout le contraire de ça, peut donner des raisons et tout, utiliser des mots très savants, il est dans l'erreur. Et aucun homme ne témoignera du fait que l'homme est mort et corrompu. Aucun homme ne témoignera de cela par lui-même, parce que aucun homme mort ne peut se rendre la vie. Et donc, voir la réalité. La Bible ne laisse pas non plus aux théologiens la tâche de spéculer sur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de théologiens, qu'il n'y a pas beaucoup de théologiens qui spéculent sur ces choses. Il y en a énormément. Même des gens qui sont attachés à la vérité, souvent spéculent. Je suivais un échange au sujet d'un sujet théologique pendant la semaine, là. Et ça allait, ça allait. Vous savez, les commentaires, alors il y a des commentaires, alors des fois il y a une dizaine de commentaires, c'est beaucoup. Là, il y en avait plus de presque 100. au moment où j'ai regardé, alors depuis, c'est pas trop le temps. Mais en fait, ça discutait sur un passage. Le passage, pour moi, il semblait assez clair. Alors, par contre, les commentaires, c'était assez difficile, hein. Il fallait même presque aller voir le dictionnaire pour comprendre certaines de ces paroles, où il fallait connaître une bonne partie de l'histoire de la théologie pour comprendre. Non, la Bible révèle clairement que le souverain sacrificateur qu'est Jésus-Christ accomplit le salut de son peuple, comme on a vu dans le début de ce culte. Et ces vérités n'évoluent pas. Ça ne bouge plus, c'est là. Parmi les hommes, on remet en question des vérités. Les vérités d'hier ne sont pas nécessairement les vérités d'aujourd'hui, nous dit-on. Mais le message de la Bible est la foi, c'est la foi qui est transmise pour toutes, une fois pour toutes, aux saints. Et ça ne se remet pas en question. Et quand on en arrive au sujet de l'Église, Dieu n'a pas laissé non plus au chef religieux le soin de concevoir qu'est-ce que c'est que cette Église. Aucun homme sur terre ne peut penser, imaginer par lui-même ce qu'est l'Église. Mais Dieu a dit beaucoup de choses au sujet de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Et il l'a fait à travers des images. C'est intéressant que je pense qu'il faudra attendre l'entrée dans la gloire pour comprendre exactement ce qu'est l'Église, pour savoir exactement ce qu'est l'Église. Mais déjà, par la foi, on peut le savoir par la foi en Dieu et en Christ. Donc, quatre images on va prendre. Et la première image, pour la première image, on va aller dans la première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 3. Vous verrez, c'est des images qu'on connaît tous, bien entendu. Donc, 1 Timothée, chapitre 3, et les versets 14 à 16 à la fin du chapitre. Et c'est intéressant que Paul, en fait, nous donne cette image un peu comme un à côté. Ça n'est pas vraiment son but premier dans ses paroles. « Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture... » Je suis dans 2 Timothée. Alors, on efface et on recommence. Mais c'était pas mal comme passage quand même. Hein? Voilà. C'est 1 Timothée, chapitre 3. Ah ben, je vais y arriver. Hein? Voilà, on est tous ensemble. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. » Mais si je tarde, tu sauras comment il faut te conduire dans la maison de Dieu. Et voilà l'image qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La maison de Dieu. En fait, il y a plusieurs images là. La maison de Dieu. Donc, notre première image, c'est cette maison de Dieu. Ou, comme on peut le traduire, le temple de Dieu. Paul écrit à Timothée et... Timothée est à Éphèse quand il reçoit cette lettre. Et à Éphèse, il y a ce grand temple dans la ville qui est une des merveilles du monde antique. C'est le temple de la déesse Diane. Et il semble que ça imposait sur toute la ville, certainement sur le trafic, sur l'activité professionnelle dans la ville, c'était très important. Donc, dans la ville, il y a ce temple de la déesse Diane. Mais il y a aussi dans l'église des juifs, des gens qui sont venus de Palestine ou qui y retournent régulièrement. Et c'est des gens qui ont connu le grand temple d'Hérode, la maison d'Hérode, on pourrait dire. Or, Paul ici parle de la maison de Dieu, le temple de Diane, le temple d'Hérode, mais le temple de Dieu. Et quelles sont les caractéristiques de cette maison? Il y en a plusieurs, mais tout de suite, il faut qu'on recentre la chose en disant, si on le traduit temple, tout de suite, le croyant a dans son idée le fait que le temple, c'est une coquille, n'est-ce pas? Et ce qui importe, c'est ce qui est dedans, et ce qui importe, c'est ce qui est encore dedans, le dedans, hein, le lieu très saint, et même le coffre à l'intérieur du lieu très saint, et surtout, surtout, ce couvercle, là où est faite la paix, où le sang est versé. Ça, c'est la chose importante. Mais première caractéristique de cette maison, c'est l'Église est une maison vivante. C'est une maison vivante, la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant. Paul dit donc qu'elle est l'Église du Dieu vivant. Or, le Dieu vivant peut-il habiter dans une maison morte, dans une maison inanimée? La déesse Diane était représentée par des statues, et on voit encore des photos de ces choses. Et il était donc normal que son temple soit simplement un bâtiment. En fait, il n'y avait rien d'autre que ce bâtiment. Mais quel est le temple, quelle est la maison du Dieu vivant, du Dieu qui a la vie en lui-même? Et Pierre répond à cela dans sa première lettre. Alors, 1 Pierre, chapitre 2, et le verset 5. On va commencer au verset 4. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, c'est-à-dire de Christ. » Et rappelons-nous, Christ, c'est le centre du temple. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, et c'est ce que nous lisons là, « et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Pierre continue avec cette image de la maison. Une maison qui est formée de pierres vivantes, c'est-à-dire c'est une maison spirituelle où l'esprit vit. Et rappelons-nous qu'on regarde la première caractéristique de cette maison, de cette église. C'est une maison qui est établie sur la pierre angulaire qu'on vient de voir, cette pierre précieuse, cette pierre vivante que Dieu a placée. Et on se rappelle que la pierre angulaire, c'est la pierre qui est vraiment importante parce que l'édifice en lui-même tient ou ne tient pas selon la qualité de cette pierre. Les arêtes de la pierre n'étaient pas faites n'importe comment. Okay. Donc, c'est une pierre précieuse parce que tout va s'aligner sur elle, mais c'est une pierre vivante, c'est-à-dire qu'elle possède la vie et qu'elle la communique. Alors, je l'ai déjà dit, mais on va avoir des enfants et nos enfants vivent. Mais on s'aperçoit qu'à mesure que le temps passe, ces enfants ont hérité une vie qui grandit, mais qui aussi va dépérir. Et déjà, on voit, quand on arrive à un certain point, on voit déjà des signes du fait que la vie que nous transmettons n'est pas une vie éternelle. Mais quand on parle de Dieu, quand on parle du Dieu vivant, c'est ça. C'est le Dieu qui a la vie en lui-même et tout ce qu'il fait est vie. Il communique la vie. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Aujourd'hui, on a des cérémonies en certaines dates et tout ça et les gens vont se retrouver autour d'un monument aux morts. Dieu n'est pas ainsi. Il est le Dieu d'Abraham. Et Abraham n'est pas mort parce qu'il a cette espérance qui était placée en celui qui est vivant. Et ce Dieu est adoré par des gens vivants. Rappelez-vous ce que Jésus lui-même disait à la Samaritaine. Vous adorez sur cette montagne, les Juifs, ils adorent sur cette autre montagne. Là où Dieu avait mis son nom, dans le passé. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où ceux qui adoreront vraiment le Père, c'est en esprit et en vérité, c'est-à-dire dans cette vie qui vient de Dieu. Alors, Dieu est adoré par des gens vivants, ces pierres vivantes. Et ces gens lui offrent des sacrifices agréables. Pourquoi? Parce que la réconciliation a eu lieu dans le sang de Christ. Donc il y a un cœur qui est là, qui n'est pas soumis à une règle, à un code qu'il doit suivre de façon pointilleuse, et c'est un fardeau. Non, maintenant c'est le cœur qui est rempli d'une vie et qui déborde, qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Et ça, c'est la description de cette Église. Le Dieu réconcilié en Christ donne la vie à ceux qui entrent dans son Église. Les paroles que je vous dis, dit Jésus, sont esprit et vie. Et dans ce cadre, bien entendu, la chair ne sert de rien. Elle ne peut pas apporter quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'on traite avec une qualité, on traite avec le fondement d'une vie que la chair ne connaît pas. La chair est morte. Et donc, de cette manière-là, la mort ne règne plus ou ne règne pas sur la vraie Église. Et là encore, on entend Jésus qui dit « Je bâtirai mon Église », on verra ça tout à l'heure. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Et souvent, on a tendance à penser que là, il parle de l'enfer. Mais il ne parle pas de l'enfer, là. Il parle de la mort. L'Église est éternelle. Elle ne va jamais mourir, comme il nous a été dit tout à l'heure avec ce psaume. Toujours, il va y avoir une nouvelle génération, et dans cette génération, il va y avoir des gens qui doivent entendre de cette Église et qui ensuite le diront, le passeront à l'autre génération. La mort ne règne pas sur la vraie Église. C'est la maison, une maison vivante. Mais en deuxième lieu, une deuxième caractéristique, c'est l'Église est la demeure de Dieu. C'est l'Église du Dieu vivant. C'est le temple du Dieu vivant. Et Dieu demeure dans cette Église. C'est lui, c'est Christ qui bâtit cette Église. Que dit-il ? Je bâtirai mon Église. Et quand les croyants, quand ils marchent ensemble, et ils forment une Église et tout ça, ils ne sont pas en train de bâtir l'Église ensemble avec Dieu. C'est ce que trop de la religion, même évangélique, fait aujourd'hui. Non, on ne bâtit pas ensemble avec Dieu. C'est Dieu qui bâtit. Il utilise des moyens, mais ces moyens, il n'en a pas besoin lui-même. Il a décidé de les utiliser. Mais l'Église, Dieu ne la reçoit de personne. Et c'est souvent une erreur qu'on commet en disant « mon Église ». Non, non, ce n'est pas mon Église. C'est l'Église du Dieu vivant, la demeure de Dieu. Et elle lui appartient de droit. Alors, souvent, nous, parmi les hommes, on va être dans une maison, soit on va la louer, soit on va la payer chaque mois, et ainsi de suite. Mais il arrive un moment où cette maison nous appartient, entre guillemets. On demeure dans cette maison. On n'a plus de compte à rendre, en quelque sorte, à quelqu'un pour le fait d'être dans cette maison. C'est la même chose pour Dieu. Elle lui appartient de droit. Regardez en Actes chapitre 2 ce que Luc nous dit par rapport à cette Église. Acte 2 et le verset 47. Ces gens, ils étaient là, ils s'assemblaient, ils faisaient certaines choses, comme on a déjà vu. Et puis, ils étaient là, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et là, quand on le voit qu'il ajoute, un verset qui est assez difficile avec la religion du jour, mais on le voit qu'il ajoute chaque jour, et en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il bâtit. Le prédicateur est là, il va prêcher, et le Seigneur utilise ça, mais il l'utilise quand lui, il a décidé de le faire. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les cœurs qui entendent, toutes les oreilles qui entendent, qui sont touchées, mais Dieu bâtit. Est-ce l'évangélisation qui ajoute, la prédication qui ajoute ? Non, pas du tout. À Gethsémané, à Golgotha, comme on l'a vu encore tout à l'heure, Christ était seul. Il était seul. Et regardez en Ésaïe 63, ce que le prophète, l'image qu'il nous donne de Christ. Ésaïe 63, c'est un passage bien connu. Quand il revient victorieux de la bataille qu'il avait menée, hein, mais au verset 3, regardez, on peut commencer au verset 2, la question lui est posée, « Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve ?» Et il répond, « J'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. » Et on peut comprendre, parce qu'en fait, ils étaient dans le pressoir, en train d'être foulés, sous la colère de Dieu. Mais il était seul. L'Église s'élève, pierre après pierre, sur le fondement du sang de Christ. Et personne, dit Paul, ne peut poser un autre fondement. Il y a beaucoup de gens qui essayent de poser d'autres fondements, de toutes sortes de tailles ou de formes, mais ce n'est pas un bon fondement. Le seul fondement, c'est le sang de Christ, c'est-à-dire la mort de Christ, ce qu'il a fait, la vie et la mort de Christ. Le fondement de l'Église est le roc inaltérable de l'œuvre de Christ. Et donc, l'Église est indestructible. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Comment les œuvres du diable, c'est-à-dire la mort, peuvent-elles prévaloir contre la maison de celui qui a détruit le diable? Il n'y a aucune crainte à avoir. Quelquefois, on voit l'Église qui semble vaciller ou des fois même se fourvoyer. Et on peut avoir la crainte de, en quelque sorte, reprendre le volant pour reprendre le bon cours. Mais il ne faut pas avoir cette crainte, paniquer. Parce que l'Église est l'Église, la demeure de Dieu. Dieu demeure dans cette maison. Est-ce qu'on construit aujourd'hui pour ne pas y habiter? Alors, bon, il y a des gens effectivement qui construisent pour louer. Mais en principe, quand on construit, c'est pour habiter. Et Dieu bâtit cette Église pour y demeurer. Autrefois, la gloire venait reposer sur le temple, mais maintenant, dans cette nouvelle alliance, le Dieu de gloire vient habiter chez ceux qui lui appartiennent. C'est pour ça que ce sont des pierres vivantes. Et la question se pose, est-ce que je fais partie de cette maison-là, de l'Église du Dieu vivant? Est-ce que Dieu demeure en moi? Est-ce que cela se voit? Est-ce que je fais partie de cette maison? Est-ce que je suis un sacrifice vivant qui offre des victimes spirituelles, des choses que la chair ne peut pas faire? Et si l'Église est la maison du Dieu vivant, elle n'est pas un lieu de trafic, elle n'est pas un endroit où on fait toutes sortes d'autres choses. Et c'est ce que nous voyons malheureusement, souvent, même dans des endroits qui sont réputés être dans la vérité. Non, ce qui se passe dans l'Église, c'est avant tout l'adoration de Dieu. Parce qu'un temple, c'est fait pour ça. Une maison, c'est fait pour ça. Et si je suis responsable, si j'appartiens aussi à l'Église, ce n'est pas ma propriété. Elle n'est pas là pour mon profit, pour ma gloire. Elle n'est pas là non plus pour accomplir ma vision de l'Église. Non, elle est là pour l'adoration de Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est le troupeau qui appartient à un maître. Et je dois paraître un jour devant ce maître et lui rendre compte. Je vais donc veiller à ce que tout dans l'Église, notamment moi-même, serve à glorifier Dieu. Alors, là, il y a déjà tout un programme. Et franchement, il ne reste pas beaucoup de temps pour faire autre chose, pour se bagarrer. Je ne suis pas appelé à bâtir l'Église. Le prédicateur, par exemple, ou celui qui annonce la parole à droite et à gauche, il est appelé à déclarer le message, à annoncer la bonne nouvelle. Le prédicateur, le responsable, est appelé à paître le troupeau de Dieu. Et chacun a pour devoir de s'approcher, de s'édifier sur la pierre angulaire pour former une maison. Non pas une maison qui suive des règles de dénomination, mais une maison spirituelle. c'est-à-dire qui offre ses sacrifices spirituels. Et Dieu prend soin de son Église. Elle est sa maison. Quel est le soin qu'on ne donne pas pour sa maison? Je me confie donc en lui, le maître architecte, et c'est sous sa direction que je peux œuvrer pour voir cette Église s'édifier. Et combien de fois on peut être surpris? On pense que les choses vont aller de telle et telle manière, et finalement, ça ne va pas comme ça, mais quand on regarde en arrière, on se dit « Ah, c'est lui qui a œuvré, c'est lui qui a fait cela. » Et l'Église s'édifie dans l'amour et dans l'obéissance. Donc c'est simplement pour la gloire de Dieu, la gloire de ce rocher qui lui sert de fondement. L'Église qui est la maison de Dieu. Ça, c'est notre première image. La deuxième image, 1 Timothée chapitre 3, toujours le même passage, et c'est dans cette fin de ce passage. Tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. L'Église du Dieu vivant qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et là, c'était une image frappante encore pour Timothée et pour les croyants de ce premier siècle, parce qu'ils avaient devant eux ces temples, notamment le temple de la déesse Diane ou le temple d'Hérode, où il y avait ces colonnades imposantes. L'Église n'est pas simplement une maison pour Dieu, elle est aussi la colonne et l'appui de la vérité. Alors, il y a certaines vérités qu'on peut tirer de cela. Première chose, l'Église soutient la vérité. Elle est la colonne et l'appui de la vérité. Elle porte le flambeau de la vérité. Le monde ne peut pas porter la lumière de la vérité. Beaucoup de gens, et de plus en plus à cause de l'hypermédiatisation de la vie, on parle beaucoup qu'il faut faire la vérité, il faut faire la lumière, il faut montrer, faut dire la vérité. Mais le monde ne peut pas faire cela, parce que le monde, c'est contre sa nature. Le monde est là, dans les ténèbres. Mais l'Église rend témoignage à ce qui est vrai. Et ça, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que si on veut faire une œuvre d'évangélisation ou quelque chose de ce genre, il faut tout de suite qu'on apprenne certaines techniques, il faut qu'on apprenne une certaine présentation de la vérité. Non, pas du tout. Ça, ces choses, même à la rigueur, peuvent être tout à fait accessoires. La chose importante, c'est témoigner de ce qui est vrai. Et on va dans un tribunal et on fait venir le témoin. Et le président de la cour, le juge, va demander à la personne de dire ce qu'elle a vu. Et la personne va dire, j'ai vu cela et je pense que... Non, non, on ne vous demande pas ce que vous pensez. Vous êtes seulement témoin ici. Vous dites ce que vous avez vu. Et puis ensuite, bon, il y a les avocats d'un côté et de l'autre qui s'évertuent pour montrer que... Est-ce que c'est vraiment ce qui a été vu? Oui, c'est ça. Porter témoignage à ce qui est vrai. Où est-ce qu'on trouve ce qui est vrai? Où voit-on la miséricorde de Dieu? Où voit-on la libération des captifs que Dieu a annoncée? Eh bien, c'est dans la parole. Et tout de suite, l'Église se fonde et soutient la parole de Dieu. C'est pour ça que tous les débats qu'il y avait eu au niveau, fut un temps, et bon, encore aujourd'hui, au sujet de l'inhérence de la Bible, sont des débats qui sont importants. Il fallait absolument qu'on sache et qu'on ne négocie pas le fait que toute la Bible est vraie. Parce que l'Église soutient cela. Elle est la colonne, elle est l'appui. Elle soutient la vérité par son message et par sa vie. Sa manière de parler doit être en ligne avec la vérité, sa manière de vivre aussi. Elle défend aussi la vérité et elle le fait par la vérité. Aujourd'hui, il va y avoir des gens qui vont se lever dans l'Église et qui annoncent des choses fausses. Et c'est vraiment étonnant ce qui peut se déclarer aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va répondre à cela? Il y a beaucoup de responsables qui se fourvoient ici parce qu'ils vont chercher dans la psychologie, ils vont chercher dans toutes sortes de spécialisations. Comment répondre à ces gens? Non, on répond par la vérité. Par la vérité. Et on l'a déjà dit, par exemple, quand on lit les lettres de Paul, on avait fait une étude sur Colossiens, c'était très clair. En fait, il répond, il est en train d'attaquer ou de défendre l'Église contre une hérésie que maintenant on connaît assez bien. Mais on ne connaît pas cette hérésie à partir de ce que Paul dit, parce qu'il utilise la vérité pour défendre la vérité. Et ça, c'est vraiment important. L'Église défend la vérité par la vérité. Et c'est pour ça que cette image de colonne est si parlante. Si la vérité est sur le sol, on ne peut pas la voir. Mais l'Église la lève au regard de tous. Elle va proclamer la vérité. C'est la ville qui est sur la colline. C'est la lumière qui est sur le chandelier. Et donc, cette Église combat les ennemis de la vérité en prêchant le mystère de la piété. Et qu'est-ce que c'est que ce mystère de la piété? C'est l'œuvre que Dieu accomplit dans le monde en vertu de ce que Christ a fait. C'est le bon dépôt qui a été confié à Timothée et qui a été confié à l'Église. Et l'Église doit en prendre soin. C'est pour ça qu'il faut creuser dans la vérité, creuser dans la parole. Parce que l'Église soutient la vérité. L'Église éclaire le monde. Nulle autre part dans le monde, la lumière de la vérité peut se voir. Comme on a dit, la vérité d'hier n'est pas nécessairement la vérité d'aujourd'hui selon le monde. Mais c'est ainsi que les élus sont attirés à la vie, parce que la vérité vient les réveiller, réveiller leur esprit dans la puissance du Saint-Esprit. Et les autres sont laissés sans excuse. Il y en a certains qui ne réagissent pas à la vérité. Est-ce que c'est parce que la vérité n'est pas claire? Non, la vérité est claire. Mais c'est parce qu'ils sont laissés dans leur mort, dans leur état. Et parce qu'elle a ce rôle crucial d'éclairer le monde, l'Église doit éviter certaines choses. Parce que si elle se tait, la situation ne cessera de se détériorer. Il faut qu'elle parle. Par exemple, l'apostasie va se répandre. Regardez au chapitre 4, qui suit notre passage, là, verset 1. On est dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Et c'est pour ça que Paul écrit à Timothée, afin de fortifier Timothée, afin de lui montrer qu'il a il a l'épée à double tranchant dans ses mains et il faut qu'il s'en serve. C'est par cette vérité qu'il va défendre la vérité, mais il faut qu'il le fasse, sinon l'apostasie va se répandre. Le penchant naturel de l'homme naturel, c'est de se détourner. Et la vérité n'a rien à voir avec les esprits séducteurs. Mais l'homme est attiré par ces choses-là. Quand l'annonce de la vérité met l'homme face à la réalité. L'hypocrisie gagnera du terrain. Regardez au verset 2. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Des gens qui sont moins que vrais. Ils cachent la vérité, c'est ça l'hypocrisie. Elle gagnera du terrain. Il y a des gens qui sont capables d'enseigner. Ils ont des dons d'enseigner, mais ils sont faux. Et donc ce qu'ils enseignent, c'est l'erreur. Combien d'hommes religieux sont hypocrites? On pense aux pharisiens, mais la race des pharisiens, elle continue. Ils promettent, mais ils ne livrent pas. Aujourd'hui, on a ce message qu'on appelle le message de prospérité, qui fatigue beaucoup de gens. On promet la prospérité, mais il n'y a qu'une seule personne qui gagne là-dedans, n'est-ce pas? Ils promettent, mais ils ne livrent pas. Ils parlent de vie, mais eux-mêmes sont dans la mort. Et donc, il faut utiliser la vérité, il faut utiliser la parole de Dieu pour combattre ces choses. Et c'est le rôle de l'Église. C'est le rôle de l'Église. La nourriture est indispensable. Regardez au verset 6. « En exposant ces choses aux frères, Timothée, tu seras un bon ministre, un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. » Le vrai serviteur n'est pas un seigneur sur l'assemblée ou même Aujourd'hui, on voit souvent des débats parmi les croyants, et c'est assez remarquable comme il y a peu d'oreilles dans ces débats. Surtout, on s'évertue, pendant qu'il y en a un qui parle, à penser comment est-ce qu'on peut, non pas simplement lui répondre, mais dire ce qu'on pense. Et là, non, ça n'est pas la réalité. Ici, Timothée doit se nourrir de la parole, de la vérité, afin de pouvoir manier la vérité, de pouvoir manier cette épée, de pouvoir nourrir les autres. C'est un serviteur, un ministre. Il parle la vérité, il croit la vérité, il vit la vérité, et c'est ainsi qu'il la fait resplendir aux yeux de toute l'Église. Et l'Église qui ne soutient pas la vérité, c'est-à-dire Christ, quelle que soit sa taille, quel que soit son nom, son activité, ça n'est pas une Église. Ça n'est pas une église. Et on a ce témoignage biblique. Les synagogues des Juifs, qui étaient quand même l'endroit où on avait toutes les chances d'entendre la parole de Dieu, mais étaient devenues des synagogues, des assemblées de Satan. Et combien aujourd'hui on peut le dire, malheureusement. Donc, la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Et maintenant, pour la troisième image, allons en Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, et verset 23. Bon, on commence au verset 22. On prend ça, là encore, c'est un à côté par rapport à l'argumentation de Paul. En fait, il utilise juste une petite image qui montre comment son subconscient fonctionne. « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. » Et donc, cette troisième image, c'est le corps de Christ. Lisons aussi 1 Corinthiens 12, 27, qui va compléter la chose. Vous êtes le corps de Christ, et il parle à une église là, et vous êtes ses membres chacun pour sa part. C'est-à-dire que ça n'est pas un genre de machin indéfinissable. Il y a des parties, il y a des membres, mais c'est le corps de Christ. Et c'est une image qui est particulièrement riche. Mais il faut faire attention à certaines vérités qui sont inamovibles là, qu'on ne peut pas changer du tout. Et rappelons une chose, c'est que c'est le corps de Christ. Il en est la tête, il en est le chef. Et c'est ça qui est important. La vie que l'Église vit, la vie qu'elle possède, n'est pas sa vie à elle. C'est la vie qui lui vient de la tête, qui lui vient de son chef. Et il est l'unique chef, l'unique tête, il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait une tête à Rome, des têtes un peu partout dans le protestantisme, et puis Christ. Non, ça n'est pas possible. Il n'y a qu'une tête, ce n'est pas une hydre, un monstre. Alors, voyons une des caractéristiques de ce corps. Premièrement, c'est un corps racheté. Racheté. Il est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Il est le sauveur. C'est un corps qui a été racheté. Et Christ est le chef parce qu'il l'a sauvé. Parce qu'il l'a sauvé en la rachetant de la vaine manière dans laquelle c'était vendu. L'homme est tombé dans le péché et le peuple que Dieu a aimé dès avant la fondation du monde est séparé de lui par le péché. C'est ce qu'on a appelé plusieurs fois le dilemme divin, n'est-ce pas ? Comment être réconcilié, comment être en paix avec un peuple qui est en guerre par rapport à Dieu ? Le péché a un salaire et ce salaire, c'est la mort. Et la sainteté de Dieu exige une justice parfaite. Il faut que la mort soit servie. on pourrait dire le travail du péché, l'œuvre du péché a été faite, il faut un salaire. Et Dieu ne peut pas ne pas servir le salaire. C'est impossible. Il est saint. Et sa sainteté, sa justice ne peut pas accepter moins que cela. Et c'est tout de suite, on voit bien entendu des choses qui sont claires, qui sont acquises, on pourrait dire, mais qu'il nous faut revenir, auxquelles il faut revenir sans arrêt, c'est que dans ce cadre-là, la chair ne sert de rien. Parce que la chair est prise dans la mort. Christ est donc venu et il a versé son sang pour son peuple. Et c'est ainsi que le pécheur racheté est uni à Dieu, réconcilié, en paix. C'est pour ça que cette cérémonie qu'ils avaient dans l'Ancien Testament au jour des expiations était tellement importante et on a du mal même à imaginer, sauf quand on voit toute la liberté, toute la grandeur de ce que Christ a fait en versant son sang. Si bien que maintenant, et Paul exulte de ça, il n'y a plus aucune condamnation. Ça n'est pas possible. Christ a fait. Il est venu. Le sang d'Adam ne peut pas unir à Christ. En fait, le sang d'Adam, il disperse. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure dans le temps avec les jeunes. C'est les tribus, les nations, les langues et tout ça. Ça vient d'où, ça? Oui, c'est Dieu qui a donné les différentes langues. Mais pourquoi? Pour séparer l'homme qui essayait d'atteindre la divinité. Non, le sang d'Adam disperse. Tous les hommes sont rivaux. Ce que font les hommes ne bâtit pas ce corps. Et d'efforts il faut, combien de réflexions il faut, combien de prières il faut pour les responsables, pour garder le corps ensemble. Et combien il faut que Dieu, en Christ, utilise souvent la verge de son châtiment pour garder le corps ensemble. Parce que dans le corps, il y a tout qui peut séparer. On voit par exemple Ananias, Saphira. Ils sont dans l'église apostolique. Ils sont dans l'église apostolique. Simon le magicien, il suit Philippe. Il suit Philippe. Mais ils ne sont pas membres du corps de Christ. Ils sont dans l'église apostolique, mais pas du corps de Christ. Et ça pourrait nous encourager, en même temps que c'est un avertissement. Simon le magicien, comme on voit que lui n'est véritablement pas touché par la grâce. Certains essayent d'être généreux envers lui, mais non. Pourquoi? Il suit un homme. Et ça, c'est un avertissement aujourd'hui. Il suit un homme au point que cet homme, qui est un serviteur de Dieu éminent, un homme d'un grand gabarit, au point que cet homme devient un écran par rapport à la grâce de Dieu pour Simon le magicien. Tout ça vient du cœur de Simon, bien sûr, mais vous voyez, ils ne sont pas membres du corps, c'est un corps racheté. Deuxième caractéristique, tous les membres sont baptisés en un seul esprit et abreuvés d'un seul esprit. Allons à 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, et regardez versets 12 et 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit non-juif, grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ce ne sont pas les réunions ou les décisions des responsables qui créent ou qui développent le corps. Aujourd'hui, on pourrait penser que s'il y a une bonne stratégie en place, si vraiment les choses sont menées un peu d'une manière professionnelle, alors l'Église va grandir, l'Église va se structurer, s'établir. Non, ça c'est un mirage, loin de là, ça n'existe pas. Beaucoup de gens sont plongés dans l'eau ou acceptés sur une liste de membres, mais ils ne sont pas baptisés en un seul esprit. C'est-à-dire que l'esprit qui les anime n'est pas l'esprit de Christ. Beaucoup de gens affirment avoir des dons, faire des miracles peut-être, mais ils n'ont pas été immergés dans un seul esprit. Et ils ne reçoivent pas leur boisson, ils ne sont pas abreuvés à cet esprit, ce seul esprit. Les vrais membres du corps sont morts en Christ. Et ça, c'est fondamental. Ils vivent maintenant dans une autre vie. Et c'est pour ça que l'apôtre peut dire « toutes choses sont nouvelles ». Et on a pointé combien de fois que ce n'est pas « toutes choses deviennent nouvelles ». Elles sont nouvelles. Et ce n'est pas simplement une expérience dans le passé. Hein. Voilà, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est une vie continuelle. Parce que c'est cette nourriture et cette eau vivifiante de l'esprit qui abreuvée d'un seul esprit. Et comme l'adepte de la boisson, on ne peut pas se passer des provisions de l'esprit. Le vrai croyant, il va passer par des hauts et des bas, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il recherche? Eh bien, de la même manière que l'ivrogne, qu'est-ce qu'il va rechercher? Ce qui est proche de son cœur, n'est-ce pas? Eh bien, celui qui est en Christ, qui a été abreuvé de l'esprit, il en veut toujours plus. Et qu'est-ce que c'est que les provisions de l'esprit? C'est Christ. Il parlera de moi. Il ne va pas parler de lui-même. Une autre chose qu'il faut voir, c'est les implications de cette image. Christ est la tête du corps. Et ça n'est pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que la vie que le corps a, il la tire de la tête. Les ordres qui permettent au corps de bouger viennent de la tête. On peut voir, par exemple, vous marchez dans un endroit dangereux et on voit le serpent. Instinctivement, on va se reculer, ou on voit un danger. Instinctivement, on va se reculer. Or, l'œil n'a pas la capacité de faire cela. L'œil ne peut pas donner des ordres aux pieds pour se sauver ou à la main pour se retirer. Non, il faut que ça passe par la tête. Alors là, on a une belle image parce qu'une certaine partie du corps permet, grâce à la puissance et à l'autorité de la tête, de donner des ordres à une autre partie du corps. Donc, Christ est la tête. Le prédicateur est celui qui annonce la bonne nouvelle ou qui enseigne dans l'Église, ne fait pas ni ne dit n'importe quoi, mais c'est seule la croix de Christ qui unit à Dieu. Là encore, c'est une chose commune dans l'Église, c'est-à-dire une chose qui est universelle dans l'Église, dans ce peuple. Une autre chose, une autre implication de cette image, aucun membre n'est superflu. Et même là, l'image du corps n'est pas complète. Parce qu'il y a des parties dans le corps qui sont superflues. Encore, tout au moins, on n'a pas encore découvert quelle était vraiment l'importance ou le rôle de cela. Il n'y a aucun des membres, aucune partie du corps qui est superflue, ni aucune qui est supérieure aux autres. Ça, c'est tout le développement de Paul dans sa première aux Corinthiens, n'est-ce pas? Et tel membre, telle partie du corps semble plus importante, mais il a besoin de... La main, qui est très utile, mais la main de l'artisan ne peut rien faire si le pied ne porte pas l'artisan là où il faut faire quelque chose, par exemple. Donc c'est important de garder cela à l'esprit. Beaucoup d'autres choses encore, mais on va avancer à la quatrième image. La quatrième image, on trouve ça aussi en Éphésiens 5, même passage. C'est l'épouse de Christ. Il présente cette épouse pour laquelle il s'est donné, l'épouse de Christ, l'image encore. Et cette dernière image aussi est très belle. Alors, on lit souvent ces passages au moment des mariages et des bénédictions nuptiales, mais en fait, ce passage est utilisé pour décrire l'Église. Et l'Église est une réalité spirituelle. Et Paul se sert de l'image du couple afin de faire comprendre quelle est la relation entre Christ et l'Église. L'Église est unie à Christ par les liens du mariage, des liens qui sont les plus profonds qu'on puisse connaître. Et cela, bien entendu, nous ramène à l'alliance de grâce, au conseil éternel de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a agi comme un tyran, comme un despote, qu'il a décidé de faire cela et tout ça. Non, c'est le Dieu de grâce qui décide. C'est-à-dire qu'il le fait rempli d'amour. Il le fait avec ce grand amour, cette grâce. Il a choisi cette Église et il oublie tout autre. Il n'y a pas deux épouses pour Dieu. Et il l'a choisi par amour. Et c'est intéressant qu'en fait, il l'a choisi à cause de son amour à lui. Parce qu'en elle, il n'y avait rien d'aimable. Il n'y avait rien qui puisse attirer cet amour. Et il s'est donné, engagé envers elle. Il y a ce contrat, cette alliance qui est manifestée par le don de lui-même dans la personne de Christ. Et ça, c'est la plus grande preuve d'amour. Il la prend avec lui-même, dans le sens que Paul peut dire, mais ignorez-vous que vous êtes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu réside dans le croyant et dans l'Église. Et il ne peut pas en être séparé, ce n'est pas possible. Il ne peut surtout pas la délaisser. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne qu'il n'aime plus que cette Église. Il n'y a personne qu'il n'aime plus que ceux qu'il a aimés de toute éternité. Des fois, on peut dire qu'avec le temps, l'amour s'approfondit et tout ça, et il y a une dimension de vrai, là, bien sûr. Mais avec Dieu, alors, depuis l'éternité, c'est vraiment profond. Le statut de cette Église, c'est intéressant à voir. Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Elle est devant Dieu. Il l'a fait paraître devant Dieu. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de statut par elle-même. Elle est couverte de la gloire de son époux. Alors, j'étais intéressé en pensant à ça. C'était il y a quelques mois maintenant, quand il y a eu cette passation de pouvoir là, aux États-Unis, le nouveau président qui prête serment et tout ça. Alors, c'est la première fois que j'avais vu la cérémonie en partie tout au moins. Alors, il y a une dame qui arrive comme ça. Alors, depuis 4 ou 8 ans, elle a été la première dame parce qu'elle était la femme, l'épouse du premier homme. Mais on enlève le premier homme, elle n'est plus la première dame. Mais ce jour-là, toute bien habillée, ça doit être un moment terrible pour cette pauvre femme, je pense. Mais elle n'est plus rien, en quelque sorte. Parce que voilà une autre qui arrive, qui n'a rien fait par elle-même, mais elle devient la première dame du pays. Et bien sûr, on peut traduire dans des tas d'autres contextes, peut-être pas le contexte français pour le moment, mais voilà, la première dame tire son statut de son époux. Sa gloire, c'est celle d'être l'épouse de celui-ci. Et bon, ça n'est qu'une image bien pâle, bien entendu, mais elle est couverte de la gloire de son époux. Elle est sainte, séparée du monde. On ne peut pas la confondre, vous voyez. Et lui, certainement, ne peut pas regarder. Attends, elle est où? Non, non, il sait exactement. C'est important, cela. Et elle est irréprochable. Personne ne trouvera rien à redire. Et on a cette image de Josué. Vous vous rappelez en Zacharie, Josué, le souverain sacrificateur, il est devant l'Éternel, mais il y a quelque chose à redire. Parce que Satan est là pour l'accuser. Et il a de quoi, parce que Josué était revêtu de vêtements souillés. Mais pour Dieu, non. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'ange de l'Éternel qui est là. Et l'ange de l'Éternel a payé pour ça. Et ça n'est pas simplement un statut mais c'est une vie, une vie. L'Église tire sa vie de son époux, de son sauveur. Allons en Apocalypse 19. On n'arrive pas à en sortir de ce livre, n'est-ce pas? Et les versets 7 et 8. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Et réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le saint, celui qui appartient à l'Église, celui qui est transformé, qui est régénéré par Christ, ce n'est pas quelqu'un qui est mis un peu dans une vitrine en attendant ce jour. Non, il est rempli d'œuvres bonnes, d'œuvres justes. Pourquoi ? Parce qu'il les fait en celui qui est juste. Et donc, cette épouse, elle a cette gloire, mais une gloire qui n'est pas simplement un statut, c'est une vie. Et l'attitude de cette Église, puisqu'elle est l'épouse, elle est soumise, non pas par devoir, mais à Christ, comme au Seigneur. C'est-à-dire que c'est une soumission qui est la soumission de l'épouse. Alors, parmi les hommes, c'est souvent la femme qui quitte la maison de ses parents pour l'époux. Mais en Christ, avec Christ, c'est le contraire. C'est lui qui a quitté sa demeure éternelle pour venir chercher son épouse. Elle obéit au Seigneur pour tout. Ce qui régule sa vie, c'est l'obéissance à son Seigneur, plutôt que la loi. Il n'y a pas un deuxième époux, non. Mais en fait, cette Église trouve en elle-même le désir d'obéir à son Seigneur. Et c'est pour ça que ce n'est pas un fardeau, un joug qui est un fardeau, c'est léger. Et finalement, elle parle comme l'esprit de l'époux. Rappelons-nous ce qu'on a vu la semaine dernière, ou c'était peut-être la semaine avant, je ne me rappelle plus, mais l'Esprit dit « viens », mais il n'est pas le seul à le dire, n'est-ce pas? L'épouse aussi dit « viens ». Elle parle comme l'époux. Et la question qu'on se pose, est-ce que moi-même, je fais partie de cette épouse? Est-ce que moi-même, je vis cette vie que Dieu met dans son épouse, dans son Église? Voilà quatre images de l'Église qui nous permettent déjà d'alimenter notre réflexion et d'attiser notre adoration de ce Seigneur qui se glorifie dans son Église. Elle est la plénitude de Dieu, la plénitude du Sauveur. C'est quelque chose de difficile à comprendre, mais c'est réel. Qu'il soit béni pour sa bonté envers nous. Amen.